On regarde la bande-annonce tout de suite. Je le rappelle pour les âmes sensibles que ce film est exclusivement interprété par des femmes.
Le bar à chat est de retour.
On est là.
Après avoir déserté un petit peu les ondes en ce début d'année.
On était malade.
Oui, on était tout un tas de choses qui ne regardent personne. D'ailleurs, on n'était pas là, mais aujourd'hui, on est là. Donc, c'est le principal.
Et avec plaisir.
Exactement. Donc, pas le générique habituel cette fois-ci, comme vous avez pu vous en rendre compte, auditrices, auditeurs. On en avait un petit peu marre, on a envie d'évoluer. Et du coup, aujourd'hui, c'est une introduction en hommage à Keith Flint, emblématique chanteur du groupe Prodigy, qui a été retrouvé mort hier lundi 4 mars, à l'âge de 49 ans. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Merci à toi pour ta créativité, Keith. Bon, il faut que je le dise aussi, du coup, l'autre nouvelle de décès de hier, c'est le fameux Dylan McKay de Beverly Hills, Luke Perry, qui est décédé à l'âge de 52 ans. Alors bon, ça donne franchement envie d'en profiter, et de deux, ça file quand même un méchant coup de vieux au trentenaire de ma trempe quand les crushs de ton adolescence commencent à mourir. Voilà. Bon, après, plus gaiement, voilà, nous sommes de retour, gonflés à bloc, après 2 mois d'absence, et on imagine qu'on a dû terriblement vous manquer. Nous, en tout cas, on s'est manqué.
Oui.
Voilà.
C'est plaisir d'être là.
Moi, j'ai la méga patate, perso, je reviens d'un super stage d'autodéfense qui se déroulait dans le Rougier ce week-end, et je peux vous dire que ça m'a filé une énergie et une confiance en moi. Voilà, à donf quoi, moi je suis reboostée pour toute l'année, là. J'espère que ça va durer, puis je vais continuer à m'entraîner, à faire toutes les petites
Alors si vous voulez des démonstrations, il faut passer à la radio.
Je les montre pas à tout le monde. Très bien, donc Félice Potin est avec moi en studio, nous sommes donc deux et nous adressons des bisous aux chattes absentes.
Voilà, toutes les chattes du monde.
Exactement. Félice, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité qui est encore brûlant et on espère qu'il va être brûlant encore un moment, c'est les gilets jaunes. Donc je vous ai fait un petit montage de paroles de femmes gilets jaunes. Et puis, un petit peu plus tard, je vous parlerai, je vous passerai des petits extraits d'une interview de Monique Pinson-Charlot, célèbre sociologue, qui a eu l'intelligence avec son époux de nous concocter une petite arme pour les gilets jaunes.
Parfait. Moi, j'ai hâte d'entendre ça. Pour ma part, moi, je ferai une petite revue d'actu, nouveauté de ce qui s'est passé depuis le début de l'année et un petit coup de gueule sur une chanson très d'actualité qu'on entend sur toutes les musiques hyper jeunes de Dadju qui s'appelle Jaloux et qu'on écoutera, mais pas trop quand même. Eh bien, Félix,
partons pour les paroles de femmes gilets jaunes.
La femme, elle a un énorme pouvoir aussi. La femme, elle est présente, la femme, elle existe.
Ils sont en train de nous gazer, donc franchement, c'est révoltant. On a le droit de manifester et eux, ils ont le droit de nous gazer. Franchement, c'est grave. Hein.
Mais on veut juste montrer qu'on n'avait pas autant de droits que les hommes à une époque, mais qu'on est là et qu'on revendique aussi nos droits. La justice pour tous, ce serait déjà pas mal.
Les femmes sont les premières précaires qui ont des temps partiels subis, des carrières stoppées par les maternités. Et les femmes sont en première ligne pour demander l'égalité et l'équité.
C'est la révolution des femmes. Je pense que les femmes, elles sont sorties et c'est pas facile de les laisser rentrer à la maison. Moi, je pense que je suis bien ici.
Les extras, je me les autorise surtout pour les enfants, s'ils ont vraiment besoin d'une paire de chaussures ou quoi. Mais sinon, je le fais pas. Je m'achète pas de vêtements, je vais pas chez le coiffeur. Rien du tout. Mais j'aimerais tellement vivre. Juste vivre.
Je suis venue particulièrement parce que je trouvais que c'était important de venir en tant que femme, en tant que mère, que fille, que sœur. et de se réunir entre femmes en mode pacifiste.
Non. Je pense que c'est le sexisme et le racisme.
Mais le racisme qui divise le prolétariat.
S'il n'y avait pas de patriarcat, il n'y aurait pas de division. Le patriarcat n'est pas détruit. Il se porte en très bonne forme. En France, on a une femme qui est violée toutes les 7 minutes. On a environ 80 000 viols et tentatives de viol par an.
On veut pas de mouvement. Clairement, on est en train de manifester pour que tout ça s'arrête. Reprendre le truc en mouvement politique, c'est simplement du buzz. On est là pour la France. On n'est pas là pour la détruire. Au contraire, on est là pour la reconstruire, pour faire quelque chose tous ensemble, pour être soudés. Je pense que c'est à nous de faire les choses, c'est à nous de nous battre.
Je suis dans l'inquiétude pour mes enfants. Mes parents vivaient mieux que moi. Depuis 10 ans à peu près, je vis moins bien que mes parents. Et je vois que mes enfants galèrent, alors je ne supporte plus. J'ai reçu à mon domicile un courrier anonyme, urgent, par la poste, qui me demande de fermer ma grande bouche, mais je suis encore plus motivée pour l'ouvrir.
Les salaires de 600 euros comme moi actuellement, qu'est-ce que j'ai gagné? Bah rien du tout, encore une fois.
Je portais un regard particulier sur les violences en général, jusqu'à ce que moi-même je finisse par en subir. J'étais la première à défendre les forces de l'ordre. Voilà, maintenant ça commence à coincer beaucoup.
On peut même pas réagir, on fait rien de mal, on est tout de suite gazé. On se fait pas entendre en fait.
Pour moi, la victoire viendra par les femmes. Les femmes sont déterminées, elles sont fortes. Vous les voyez en nombre et on lâchera pas.
On vient de porter une parole qui est celle des femmes les plus précaires et les plus vulnérables. On manifeste pour le logement, pour les mères isolées qui ont été très présentes sur les ronds-points, pour toutes les femmes précaires en fait. Pour la femme précaire, femme en guerre. Les femmes sont dans la rue et on lâchera rien.
On a aussi des institutions qui sont verrouillées. Quel espace démocratique on a dans ce pays que d'être dans la rue en fait.
Tout cet élan, tout ce cœur, il est mis par des femmes qu'on voit rarement, qui sont en général en retrait. Et bien maintenant, on est aussi devant de la scène et on veut dire que non, les gilets jaunes ne sont pas des radicaux, xénophobes, homophobes, parce que vous avez des femmes qui sont gilets jaunes et on n'a rien à voir avec tout ça. Et les gilets jaunes en général n'ont rien à voir avec tout ça.
On était là pacifiquement, j'étais devant les CRS, ils ont commencé à pousser. Il y a un CRS, un vieux, qui a pris sa bombe au poivre et qui me l'a balancé dans les yeux. De quel droit? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'ils étaient en danger pour faire ça? Après ils disent qu'on a la haine envers eux, qu'ils viennent pas se plaindre.
Les gilets jaunes, par les femmes qui sont présentes, ne sont ni complotistes, ni extrémistes, ni racistes, ni xénophobes, ni radicales, parce que les femmes que vous voyez aujourd'hui sont celles qui sont également présentes les samedis sur les manifestations, lors des gazages, lors des matraquages, et qu'il est très facile de mettre une étiquette à un homme, mais il va alors être beaucoup plus compliqué de mettre une étiquette à des femmes. Nous multiplions les actions.
Aujourd'hui, il manifeste pour que le pouvoir en place prenne conscience qu'on est dans la rue, qu'on existe et qu'on a besoin de s'investir un peu plus dans la gestion de notre pays. Aujourd'hui, on voulait souligner le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui galèrent. C'était important que les femmes aujourd'hui se réunissent toutes ensemble pour montrer l'unité des femmes entre elles, pour se faire entendre. Il y a aussi beaucoup de choses à faire sur l'égalité hommes et femmes. Ça fait depuis le 17 novembre qu'on est mobilisé. À force, les gens, ils en ont marre. En plus, sur des manifestations déclarées, on arrive à être quand même tapés, gazés. Donc, je peux comprendre que certains aient envie de basculer dans des opérations un peu coup de poing. J'espère que le gouvernement en place pourra changer sa donne et puis ouvrir un petit peu plus ses oreilles et ses yeux. Et sinon, si c'est pas le cas, eh ben, on continuera, on sera toujours là jusqu'au bout.
Les gilets jaunes ont démarré beaucoup avec des femmes et elles se sont pas forcément fait entendre. Bon, là, c'est une manière de récidiver. Et là, véritablement, ça commence à devenir vraiment insupportable, les réactions du gouvernement. Il y a une façon de déconsidérer le citoyen et la citoyenne, de nous considérer comme des petites personnes mal élevées et irresponsables. Et c'est très désagréable en tant que citoyenne. Et il faut savoir qu'en termes de médias, on va dire que 80% de la diffusion médiatique se fait autour de violences. Et le reste, c'est laissé aux interludes. On a beau répéter que 80% des gens ici sont pacifiques. Et les violences qui sont faites sont relativement peu proportionnelles aux outrages faits à chacun de nous. Il y a une violence psychologique phénoménale. Donc il y aura toujours des gens pour manifester. Si la police n'est pas capable de compter correctement le nombre de personnes, comment leur faire confiance? On n'a pas le sentiment de perdre le souffle. Il y a trop de gens qui ont souffert et ce qui est agaçant aussi, c'est qu'on entend beaucoup trop souvent Macron dire qu'il est légitime, mais en réalité on sait très bien qu'on n'est pas dans une démocratie représentative. À partir de là, non, il n'est pas légitime.
Il faut arrêter, je pense qu'il y a un moment, il faut quand même nous prendre en compte et qu'on n'est pas là dans la rue à gueuler pour rien, c'est qu'on crève de faim. Le peuple, il n'a plus rien aujourd'hui pour vivre. Il faut nous redonner un peu de pouvoir aussi à nous.
Ça fait 40 ans qu'on vote par défaut, qu'on n'est pas représenté. Donc la colère est profonde, elle ne va pas retomber. Personne ne refuse de payer d'impôts dans la mesure où il est juste et où il est attribué au bien de tous. Ça fait trop d'années que ça n'est plus le cas. Donc il y a un moment, ça suffit.
Ah Manu, tu descends !
Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi.
Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé? Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes? Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho.
Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne. Coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise. Besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays. Exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système. Insurgés du règne mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés pour dire non. Fils de la liberté, on se doit d'œuvrer. Parce que leur monde pue la mort, que tout le vivant est wanted. Qu'il ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu dans sa quête des regrets, plein les doigts. Dites aux tortionnaires qu'on ne les laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite. Le même pourra faire du destin collectif une tragédie.
Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes.
Excusez, problèmes techniques. Faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous cause. Notre lutte est légitime face à une politique d'holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles, telle et telle guerre tirant profit du centre de terre mère au pied du mur, presque prise au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Se prépare le terreau hors pair du plus grand génocide. La famine dans les pays riches, répression mais aussi des épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour businesser un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être, peut-être avec une puce de danse, serait-ce pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. L'Occident construit des camps, l'Europe s'appelle prête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés.
Oh, qu'est-ce qui se passe en régie?
Ça y est, on a l'antenne.
Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour tenter.
Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices, l'espoir d'un nouveau souffle. La quête n'est pas terminée, l'humanité, chaque instant est propice, contient l'éternité, soldat de la paix. Ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine. Bénis soient ceux qui s'interposent, ceux qui construisent autre chose. Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera votre propre. Ressort. Les cœurs sont irradiés, coffres forts barricadés. Tout fleuron du changement finit sous les matraques des brigadiers. Des flics armés au racisme colonial. Des principes honorables écrasés car ça ne pense qu'au dollar. Zéro au moral, à force de perdre nos vies. Nourris au film américain et à la bouffe de Tchernobyl. Putain, on a dit non à la triche des vainqueurs. Au dessin demain devient peuple, société redevient peuple.
Téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. La police nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur service et qualifié de...
Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas. Pas de débat face aux dégâts. Le mensonge sort de la bouche des médias. Ils veulent nous baïonner. Aux tortionnaires distribuent des médailles. Le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Coup d'éclat venu clamer à vous autres. Oh, et qu'on a plein de belles choses à construire et que personne viendra nous sauver. Tout sonner dehors, sur la foi reste l'or. Êtes-vous d'accord? Que ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme. Révolution intérieure, dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. L'urbain sera l'exode, que le verbe nous honore. Car c'est les enfants de la terre contre les armées du vaudor. Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes qu'on ghettoise. Rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous diront terroristes. À l'antenne, c'était Arca du clan des Wanted. Comme un écho d'une promesse lointaine.
C'est des conneries.
Mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge.
Donc nous venons d'écouter la rappeuse Kenny Arcana et c'était, enfin, ça m'a semblé être vraiment d'à propos.
Tout à fait.
Et voilà, c'est très très intéressant. Alors ce petit montage, en fait, j'ai pris des petits bouts dans différents reportages qu'on peut voir sur YouTube ou sur des chaînes d'infos autonomes, hein, libres et gratuites. Donc on a un petit peu des paroles de femmes qui ont été dans différentes manifestations depuis le début des manifestations, mais après pas mal aussi sur les manifestations spécifiques de femmes, quoi.
Ouais.
Donc ce qui me frappe, moi, quand même, dans tout ça, c'est que on entend des voix très jeunes, on entend aussi des voix beaucoup plus âgées, beaucoup plus matures, et puis en fait, le résultat est le même, tout le monde est traité de la même manière, on est tous traités comme des sauvages et comme des incompétents.
Mmh. Ouais, non, mais c'était...
Voilà.
C'était assez parlant de ce qui se passe, et puis voilà, C'est marrant parce qu'avant, c'est pas forcément des termes qu'on entendait ressortir dans des manifs par rapport à de la colère. Là, j'ai entendu plusieurs fois le mot, par exemple, patriarcat qui revenait. Pas... Enfin, moi, je trouve ça chouette parce que ça veut dire que, voilà, il y a les esprits qui commencent à changer au niveau de la réflexion. Il y a des idées qui tournent.
Après, j'ai enlevé pas mal de morceaux parce que je ne pouvais pas tout mettre. Mais ce que j'ai entendu aussi qui revenait régulièrement et dans toutes les bouches et dans toutes les générations, c'est le mépris avec lequel ce gouvernement nous traite, et notamment M. Macron. Et ça, dans les bouches de plusieurs personnes de différentes générations. Mmh. Donc, si tout le monde ressent ça, y compris des gens qui sont sages, des gens qui sont cultivés, des gens qui n'ont plus rien à prouver à personne, c'est que quelque part, on ne rêve pas, quoi.
Ah non, c'est clair.
Voilà.
Très bien. Eh bien, merci Félice Potin pour cette première intervention. Donc, c'est à mon tour. Donc, comme je vous avais annoncé tout à l'heure, je vais vous faire une petite revue d'actu de ce qui s'est passé un petit peu depuis le début de l'année. C'est un petit pot pourri, j'ai choisi, parce que c'est mon papier, donc c'est moi qui choisis. Alors, tout d'abord, on va commencer avec la planète foot. Un article a attiré mon attention en ce début d'année. Ce sont les footballeuses de moins de 15 ans du FC Nantes qui ont fait les titres de la presse du fait de leurs exploits. En 3 matchs, les filles ont inscrit 95 buts, dont une victoire 40-0 qui n'est pas passée inaperçue. Donc les filles de l'équipe, tellement douées, ont un petit peu commencé à s'ennuyer, il faut l'avouer, lors de leur match. Du coup, la Ligue de football locale les a donc fait jouer contre des équipes masculines, mais seulement en match amical. En effet, car selon le président du district de Loire-Atlantique, les garçons n'aiment pas perdre, alors être battus par des filles. Et il a rajouté, de toute façon, elles pratiquent un football différent.
Ah bon ?
Oh, mais c'est vrai quoi, les pauvres petits choux, zut flûte quoi. Enfin bon, voilà.
C'est pas la même balle, c'est pas les mêmes règles, non, c'est ça ?
Effectivement. Enfin bon, pour info, pour leur premier match face à des garçons, les Nantaises ont gagné 3-0.
Qu'est-ce que tu fumes ? Donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas du tabac, j'espère ?
Non, c'est de l'herbe.
Il est interdit de toucher aux pelouses de l'établissement.
Seconde actu, donc une affaire d'espionnage vidéo et photo dans les douches de la CTU du campus de Beaulieu à Rennes. Depuis le début de l'année universitaire, plusieurs étudiantes rennaises ont été filmées à leur insu dans les sanitaires communs de leur résidence Crous. Dans ces bâtiments, les douches sont mixtes et communes et les portes des dites douches ne sont pas sécurisées, laissant une bonne vingtaine de centimètres entre le bas de la porte et le sol, permettant ainsi facilement d'y passer la tête ou un appareil d'enregistrement. À seulement quelques semaines d'intervalle, deux jeunes femmes ont surpris des appareils les filmant à leur insu sous leur douche. Le rectorat mène l'enquête et promet une rénovation des sanitaires. Youpi ! Alors là,
c'est pas sérieux.
Voilà, la petite vache, parce que je vais vous parler du Salon international de l'agriculture de cette année, où on pourrait dire plein de choses, mais là, bon, il fallait que je me tempère, donc je me suis focalisé ça. Donc, un gros big up de caca à l'entreprise Bednar Farm Machinery, qui a dû heurter une faille spatio-temporelle et zapper que nous étions désormais en 2019. Pour preuve, une splendide publication sur leur page Facebook nous montrant des hôtesses en robe moulante jaune perchées sur des talons de 12 cm pour vendre des moissonneuses-batteuses, des charrues et autres déchaumeuses. Avec le commentaire suivant sur leur publication, sur le stand, vous ne trouverez pas que de magnifiques machines Bednar. Venez vous en persuader de vos propres yeux. Le truc qui réconforte, c'est que quand même, leur publication, depuis qu'elle est en ligne, est inondée de commentaires sur leur attitude sexiste. Donc ça fait plaisir.
Oui, carrément.
Et alors là, attention, grande annonce. L'Académie française s'ouvre à la féminisation. Là, moi, je dis musique. Et oui, un grand hurrah quand même avec cette annonce. Après avoir freiné pendant 4 siècles, l'Académie française consent finalement à la féminisation des noms de métiers, grades, titres et fonctions. L'Académie ne compte pas dresser une liste exhaustive des noms de métiers et de leur féminisation inscrite dans l'usage ou souhaitable, ni édicter des règles de féminisation des noms de métiers en arguant que ce serait une tâche insurmontable. Il convient de laisser aux pratiques qui assurent la vitalité de la langue le soin de trancher, a indiqué l'Académie, qui a retenu dans son rapport des mots jusqu'à présent tabous comme « professeur ». L'emploi de ces formes en heure qui fait débat et cristallise certaines oppositions au mouvement naturel de la féminisation de la langue ne constitue pas une menace pour la structure de la langue, ni un enjeu véritable du point de vue de l'euphonie, c'est l'académie qui parle, à condition toutefois que le E muet final ne soit pas prononcé, a tranché la dite académie, qui accepte donc également les mots comme auteur, autrice et écrivaine. On se félicitera donc toutes et tous de la position bien différente de l'Académie en 2002, dans laquelle cette dernière campait sur ses positions au mépris de l'histoire de la langue. Citation. « On se gardera d'user de néologismes », écrivait-elle, « comme agente, chef, maîtresse de conférences, écrivaine, autrice. L'oreille autant que l'intelligence grammaticale devrait prévenir contre de telles aberrations lexicales.
Wow. »
Bravo. Ils ont évolué quand même. Donc moi je dis, allez, hippipi pourra. Et franchement, comme je suis tellement contente, on s'en remet un petit coup juste pour le plaisir. Ouais, j'avais envie de bouger en ce moment, là, j'ai besoin de rythme. autre actu qui arrive très prochainement, c'est la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Donc, ne pas confondre, je le rappelle, complimenter le statut de femme, donc ce jour-là, leur offrir des réductions shopping, des fleurs, voire un robot de cuisine, ou passer l'aspirateur à leur place, avec le fait de se battre et de militer pour plus d'égalité. Je rappelle qu'à diplôme égal, les hommes gagnent toujours en moyenne 34% de plus que les femmes, que plus de 30% des femmes sont à temps partiel contre 7% des hommes, que seules 17 des 1000 personnalités les plus citées dans les médias en 2017 étaient des femmes, et qu'environ 84 000 femmes subiraient un viol ou une tentative de viol en France chaque année. Bref, le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. Et si vous vous moquez du fait qu'il faille bien une journée sur ce thème, c'est que vous n'avez encore et toujours pas compris. Allez donc vous documenter. Bisous. Enfin, pour achever ce tour d'horizon, une suggestion visionnage. Demain sur Arte, je vous conseille le docu sans tabou sur la sexualité féminine, Viva la vulva. C'est à 23h. Oui, forcément, faut que ce soit un petit peu tard. Hein. Quand on parle de sexualité féminine. Mais il y aura aussi des replays, si jamais. Donc moi, en tout cas, j'ai bien hâte de mater ce docu qui promet. Et c'était de nouveau Prodigy avec le titre Breathe. Toujours un petit hommage, et puis cette chanson est carrément géniale. Donc voilà, Félix Potin, à toi.
Cynique, illettré, fainéant, réfractaire.
On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés.
Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder.
Ah oui, mais
ils peuvent pas avoir des postes. Parce qu'il y en a qui ont les qualifications
pour
le
faire. Hein.
Le Gaulois, réfractaire au changement.
Beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté.
Il faut des gens qui sont en situation de difficulté, mais on va davantage responsabiliser. Parce qu'il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent.
Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Et voilà, donc en fait, je vous propose un petit montage d'un entretien de Dominique Pinson-Charlot avec Aude Lancelin, qui date donc du 21 janvier 2019 sur Le Média, qui est donc un site d'actualité français gratuit et autonome aujourd'hui. Mm-hmm. Le célèbre couple de sociologues Dominique et Michel Pinson-Charlot a déjà enquêté sur Nicolas Sarkozy et publié en 2010 Le Président des Riches, et il récidive avec Le Président des Ultra-Riches, sous-titré, pardon, Chronique du mépris de classe dans la politique d'Emmanuel Macron. Tout un programme. Hein. Donc, il est paru là en fin janvier dernier. Donc, les deux sociologues y détaillent le parcours du leader des marchés libres, comme le surnomme le magazine Forbes, et les renvois d'ascenseurs constants direction des plus nantis. La démonstration est féroce.
Macron, c'est moi en mieux, avait dit Nicolas Sarkozy en juin 2017. Est-ce qu'il y a quelque chose qui distingue les connivences oligarchiques de Nicolas Sarkozy de celles d'Emmanuel Macron ?
C'est-à-dire qu'on est passé à une violence de classe, à une violence oligarchique et donc à des connivences beaucoup plus serrées, beaucoup plus ardu, beaucoup plus dans la défense des intérêts de cette oligarchie, avec des cadeaux faits aux plus riches tout de suite, très vite et à des niveaux que n'atteignait pas le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy.
Chiffres à l'appui, Emmanuel Macron est bien le président des ultra-riches. Depuis l'élection présidentielle, les sociétés du CAC 40 font des bénéfices records, 500 millions de plus sur le même laps de temps qu'avant son élection. Les PDG du CAC 40 ont touché 5 millions d'euros, soit déjà près de 15% de plus en un an depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'est l'orgie complète, là.
C'est le résultat d'une politique de l'offre qu'a initiée Emmanuel Macron dès son arrivée au secrétariat général de l'Élysée sous François Hollande. Quand François Hollande était candidat, c'est Emmanuel Macron qui a quand même fait tout le programme économique, tout en étant associé gérant chez Rothschild. Et donc, cette politique de l'offre, c'est on donne beaucoup d'argent aux actionnaires, aux sociétés, aux entreprises sous divers cadeaux fiscaux, au total en dizaines de milliards d'euros. Et le plus intéressant, je trouve, c'est que ça se fait sans aucun contrôle. Dès qu'il s'agit des plus riches, Emmanuel Macron revendique une société de confiance, et quand il s'agit des plus démunis, des classes moyennes, des classes populaires, des chômeurs notamment, on entre là dans une société de défiance où les chômeurs deviennent des fraudeurs, des fainéants, des extrêmes et des cyniques. Alors nous, dans ce livre, nous montrons que c'est l'oligarchie qui est extrême, ultra, cynique, fainéante. Parce que Emmanuel Macron, dès le départ, il a supprimé l'ISF. Pourquoi je dis que c'est un vrai cadeau aux plus riches ? Parce que si on regarde les 100 plus riches de l'ISF, on s'aperçoit que leur patrimoine qui était assujetti à l'ISF est composé de valeurs mobilières, c'est-à-dire d'actions, d'obligations. Le gros de leur patrimoine est fait de capital financier. Alors donc, en supprimant l'ISF, ils suppriment le patrimoine financier, c'est-à-dire le stock du capital qu'ont les plus riches. C'est à la faveur vraiment des plus riches. Emmanuel Macron ne peut pas accéder à la revendication des Gilets jaunes de rétablir l'ISF. Parce qu'à l'ISF, il a arrimé ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique. En anglais, ça s'appelle la flat tax. C'est-à-dire que les revenus de ce stock, c'est autre chose, le stock et les revenus que ça génère, étaient imposés de manière progressive, comme les revenus, avec des tranches qui allaient jusqu'à 45%. Et Emmanuel Macron a fait quelque chose de forfaitaire et donc de non progressif, un impôt spécial pour les capitalistes qu'il a annoncé annonçait comme baissant de 60 à 30%. Et puis, en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il y avait une manipulation idéologique là-bas derrière, c'est-à-dire que ça n'est pas 30% que vous allez payer, c'est 12,8%. C'est-à-dire qu'en réalité, l'impôt sur le capital est en dessous de la première tranche d'imposition à 14% pour les revenus des salariés. J'espère que je suis claire, parce que l'imposture est de taille. Je résume, quand il s'agit des impôts sur le capital, on intègre automatiquement les cotisations sociales et la CSG. Mais on ne le fait pas pour les salariés. La conséquence immédiate, c'est qu'évidemment, les traders, tous ceux qui sont payés avec des salaires mirobolants, ont déjà demandé à être payés en dividendes pour évidemment moins payer d'impôts. Donc c'est quelque chose qui va revenir en boomerang sur Macron, parce que là, le boomerang, il va se chiffrer en milliards d'euros.
Les patrimoines des plus riches sont composés à 90% de produits financiers. Et donc la suppression de l'ISF sur ces produits, il faut le savoir, a créé un manque à gagner dans les finances publiques de 4,6 milliards d'euros. Alors que la réforme de l'ISF ne devait intervenir qu'en 2019, elle fut votée beaucoup plus tôt que prévu, au tout début du quinquennat, le 12 octobre 2017. Pourquoi ?
Ils disent les marchés. Derrière les marchés, ce sont des hommes et des femmes qui habitent dans les beaux quartiers, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'intérêt à ce que la richesse continue à leur advenir grâce à leurs titres de propriété, que ce soit des usines, des médias, que ce soit des terres agricoles, des cliniques ou des hôpitaux. Et ils savaient que Emmanuel Macron n'était pas un candidat hors système, mais vraiment un parfait représentant du néolibéralisme et de la financiarisation de l'économie. Donc ils se sont dit, avec les cadeaux qu'il nous fait, ça va peut-être pas bien se passer après pour lui si on attend trop longtemps. Donc il y a eu des pressions extrêmement fortes pour que tous ces cadeaux dont on vient de parler entrent en œuvre dès le 1er janvier 2018.
On se précipiter sur le magot avant que ça tourne mal. Voilà. La suppression de l'ISF sur les patrimoines financiers, que vous qualifiez de péché original du macronisme, semble un puissant verrou. Selon vous, il ne reviendra jamais sur cette affaire ?
C'est évidemment qu'une question de rapport de force. Il est dans un rapport de force quand même très défavorable. Et puis peut-être grâce à nous tous réunis, solidaires avec les Gilets jaunes, les syndicats, les partis, si on arrive à bien tous faire converger toutes nos luttes, eh bien le rapport de force, ça va complètement s'inverser. À ce moment-là, peut-être qu'il reviendra. Mais du fait qu'il a arrimé à la suppression de l'ISF la création de la flat tax, il faut réclamer la suppression des deux en même temps. Remettre l'ISF et annuler la flat tax.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Excuse-moi, c'est une mauvaise blague.
Et oui, voilà. Donc, ben, en fait, moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que le mensonge, plus il est gros et plus ça passe. Dans le système de connivence oligarchique qui a porté la candidature de Macron, on retrouve donc ses parents médecins, Jean-Pierre Jouyet, qui l'a introduit auprès de Hollande, Jacques Attali, Alain Minc, Henri Herman. Et donc, je vous propose que nous vérifions ensemble le pédigré de ces personnages très à part. Donc, on va commencer par Jean-Pierre Jouyet, qui a été, dans l'ordre, secrétaire d'État aux affaires européennes sous François Fillon, président de l'Autorité des marchés financiers, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, président de la Banque publique d'investissement, secrétaire général de la présidence de la République, puis ambassadeur de France au Royaume-Uni. Ensuite, Jacques Attali, donc lui aussi, chef d'orchestre, polytechnicien, énarque, ancien conseiller spécial de Mitterrand pendant une dizaine d'années, éditorialiste de l'Express, écrivain. Et je n'ai pas résisté au plaisir de ce petit paragraphe-là, parce qu'en fait, il se confie à Annick Cojan dans le journal Le Monde le 11 décembre 2015, et il lui dit... J'ai toujours appliqué quatre principes. Donc, 1, ne jamais faire quelque chose qui pourrait être fait par quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est bien. 2, mener plusieurs vies à la fois. OK. 3, faire des choses d'intérêt général. Arrêtons-nous là-dessus. Donc, car je pense que c'est un immense privilège de pouvoir rendre service, j'ai refusé d'être secrétaire national du Parti Socialiste, candidat aux élections et ministre, mais j'ai créé quatre institutions internationales. Action contre la faim, Eureka, qui est une initiative européenne intergouvernementale destinée à renforcer la compétition de l'industrie européenne, orientée marché et financée nationalement, ça c'est dur à dire. La BERD, qui est la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, et Positive Planet, qui est une ONG de développement de l'inclusion économique, sociale et environnementale dans le monde de façon durable et équitable. Et donc, en quatre, se demander systématiquement quel sera l'impact dans 20 ans de ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que réussir sa vie, c'est faire en sorte que le monde soit moins pire après soi. Le monde est imparfait, voilà, tu as le droit de rire. Le monde est imparfait, notre rôle sur Terre est de le réparer, c'est fondamentalement ce qui m'anime. Merci Monsieur Attali.
Merci Docteur Attali.
Voilà. Alors, je vais aussi parler de Monsieur Alain Minc, qui a été conseiller politique, économiste, essayiste et dirigeant d'entreprise, président d'AM Conseil et de la SANEF, l'une des trois principales sociétés autoroutières françaises. Après avoir été plusieurs années membre du conseil d'administration de Vinci, de Prisa, Kexa Bank, Fnac, Poweo, Direct Energy, Ingenico et Yves Saint-Laurent, hein, quand même, on donne un petit peu dans... Et puis, bon, je vous ai quand même gardé le magnifique pour la fin, Monsieur Henri Herman, qui est décédé il y a 2 ans, donc qui était physicien en commissariat de... Accrochez-vous, il y en a un paquet, quoi. Physicien en commissariat de l'énergie atomique. Dans les années 50, il a été responsable syndical au commissariat de l'énergie atomique et éditorialiste dans l'organe des chrétiens de gauche, La Quinzaine. Fonde la revue franco-britannique La Tribune des Peuples. Et dans les années 60, c'est un des pionniers de la grande distribution en France. Construit l'un des premiers groupes français d'immobilier commercial, président directeur général de la Société des supermarchés, crée un supermarché expérimental pour le secteur agricole organisé avec l'assistance dérogatoire de la Caisse des dépôts et consignations. Ah, il n'y avait pas quelqu'un qui était... Ah bon. Siège au conseil d'administration de l'Institut français du libre-service, président du groupe Progest, réalise des centres commerciaux de grande taille ainsi que les premiers centres commerciaux du Maroc. Ils sont, doivent être contents, les Marocains. Et en 75, il revient vers la presse, gère la revue Faire, la société des éditions du Coq et Rond, fonde la revue Intervention, directeur général puis vice-président du Matin de Paris, membre du comité directeur de l'Union progressiste et secrétaire départemental du Parti socialiste unifié, co-auteur du rapport sur la consommation, membre du Conseil économique et social, auteur du rapport sur le rôle des réseaux de distribution dans l'aménagement du territoire, préside la société HH Développement, membre fondateur de la Fondation Saint-Simon, on arrive au bout, membre de la République des idées, administrateur de Terra Nova, membre du comité d'orientation des clubs des vigilants, un fondateur et actionnaire du journal Le 1 et donc richissime.
Son CV, c'est un dossier relié de 242 pages.
Ah, c'est incroyable. Donc la cerise sur le gâteau, en fait, c'est qu'en plus, il est mentor et témoin du mariage de Macron. Voilà, donc c'est tous ces gens, en dehors d'être hyper actifs et très, 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 très riches, n'ont absolument rien à voir avec nous, voire même, ils ne sont pas du tout de la même planète que nous, quoi. Alors, non seulement Macron n'est pas le candidat hors système qu'il se targue encore de nous faire croire, mais bien le poulain des ultra-riches. Puis surgissent autour de Macron des personnages qui ont joué un rôle considérable dans sa campagne, comme Michel Marchand, chargé de la com' du couple Macron, dont on nous explique le parcours gourmand dans le livre. On vous laisse découvrir, parce que là aussi, il y en aurait un pavé. Et on y parle aussi des comptes de campagne, ah oui, dont les 29 000 euros de frais de maquillage. Alors, c'est sûrement pas ceux que j'achète dans les hypermarchés d'Henri Herman, hein, ça laisse sans voix. Et voilà de quoi nourrir l'imaginaire des amoureux de Star Trek ou de certains ufologues qui soutiennent qu'il y a des complots et que les gouvernements seraient contrôlés par des envahisseurs reptiliens. On y trouve aussi une liste exhaustive des généreux donateurs qui ont financé la campagne de Macron.
Comment a-t-on réussi à faire croire l'inverse au peuple ?
L'oligarchie, en réalité, on le voit bien à travers les votes des beaux quartiers, avait deux candidats. Le plan A, c'était Fillon. Le plan B, c'était Macron. Au premier tour, les beaux quartiers ont massivement voté pour Fillon. Mais au second tour, évidemment, ça a été un raz-de-marée dans les beaux quartiers pour Macron. Comme ses amis sont des Arnaud Lagardère, Vincent Bolloré, Dassault, Bouygues, Bernard Arnault. Je cite des patrons de presse qui contrôlent la presse, qui contrôlent la publicité. passé. Évidemment, ça n'a pas été compliqué. Il a eu, par exemple, 29 unes, alors que Fillon en avait eu 14 et Marine Le Pen 11 pour le premier tour.
Emmanuel Macron, vous le dites, a toujours refusé de donner la liste de ses grands donateurs. Une collecte qui, en 14 mois à peine, a tout de même abouti à la coquette somme de 13 millions d'euros, sur lesquels pas grand-chose en est sorti avant l'élection. Il y a qui parmi ces grands donateurs ?
Il y a des banquiers, il y a des patrons d'industrie, il y a toutes sortes de gens très diversifiés. Henri Herman, alors lui c'était avant qu'il meure en 2016, ben, il avait beaucoup mis le pied à l'étrier à Emmanuel Macron. Il y a eu toutes sortes d'oligarques, de personnalités hautement argentées qui ont financé de multiples manières, à la fois avec les dîners, les levées de fonds et toutes les réductions qui ont été faites pour les salles louées, des cadeaux indirects par des réductions très fortes pour les frais de campagne. À quoi je pourrais rajouter que Emmanuel Macron, dès qu'il est arrivé au ministère de l'économie, il a utilisé tous les frais de représentation du ministère. En réalité, on pourrait dire qu'il a un peu pillé par tous les bouts, quoi, l'argent du contribuable à travers ses invitations. Et Christian Eckert a cette formule, tout se passe comme si Emmanuel Macron s'était servi du ministère de l'économie comme tremplin pour sa campagne des présidentielles. Emmanuel Macron a toujours refusé de donner la liste des donateurs en se protégeant sous le secret fiscal. Ils ont qu'à le dire, mais moi je suis tenu au secret fiscal.
Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. 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 Rien.
De toute façon, je pense qu'on n'a plus rien à perdre.
Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. 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 Illettrées.
Une bonne paire de claques dans la gueule. Un grand coup de savate dans les fesses. Un marron sur les mandibules. Ça vous fait une deuxième jeunesse.
La violence verbale d'Emmanuel Macron, on la connaît. C'est vraiment du mépris de classe tellement ancré qu'il est verbalisé de façon imprudente. Ou est-ce qu'il n'y a pas une stratégie de provocation derrière ça?
Ah oui. On est là face à une politique qui est cohérente par rapport à la personnalité, le dominant assuré de son ultra-supériorité et d'une politique de classe extrêmement violente. C'est parfaitement assumé. C'est une provocation, c'est du cynisme, mais qui est à coquiner avec une politique de classe parfaitement en phase. Il tricote tout le temps d'un côté, de l'autre. Comme ça, ça fait des attaques frontales qui sont faites pour tétaniser, pour rendre impuissant, pour être sidéré et puis pour être incapable de penser la critique, de sortir et de se battre. Et cette volonté-là, les Gilets jaunes, avec leur visibilité, l'ont mise à mal.
Le mouvement des Gilets jaunes, vous le lisez comme un retour de la conscience de classe dans le débat public ?
Nous pensions que tous les abstentionnistes, tous les gens qui ont acheté des maisons Bouygues, qui ont besoin de leur voiture pour se rendre au boulot, étaient tellement attaqués, tellement atteints, que je ne pouvais même pas penser que ce qui se passe avec les Gilets jaunes soit possible. Les Gilets jaunes, c'était génial comme idée. Un niveau de conscience de ce qu'a fait Emmanuel Macron, tout à fait extraordinaire. Et pourquoi il s'adresse directement à Emmanuel Macron et pas au niveau de l'entreprise, parce que Macron, c'est le chef d'entreprise qui est à l'Élysée. C'est lui qui est l'emblème parfait du néolibéralisme. Maintenant, on peut être au plus haut de l'État et piller l'argent du peuple pour le donner à travers toutes sortes de manipulations diverses et variées aux plus riches en le prenant aux plus pauvres. Et lorsque Emmanuel Macron est mis à mal et qu'il fait son allocution du 10 décembre, eh bien, il est obligé de donner quelques miettes, 10 milliards d'euros, c'est pas grand-chose compte tenu du nombre. Cet argent-là, il ne le prend pas aux plus riches. Il le prend sur le budget de l'État et il a le culot de faire dire par ses Benjamin Griveaux et autres François Patria que ça va aggraver le déficit public et que c'est les pauvres, c'est les Gilets jaunes, c'est nous tous qui allons payer ce dû aux plus démunis et c'est nous qui allons être sanctionnés par l'Europe qui avons encore le mauvais rôle. Les créateurs de richesses, les investisseurs qui encaissent le pognon au lieu d'investir, eux, ils ont toujours les mots flatteurs pour le dire.
Qu'est-ce qui a interdit jusqu'ici à Emmanuel Macron d'apporter la bonne réponse au mouvement des Gilets jaunes ?
Mais c'est parce qu'il est lié, il a des contrats avec tous les oligarques. Il est pieds et poings liés. Il ne peut pas changer sa politique. Et d'ailleurs, dans le débat qu'il contrôle de bonne main, toutes les mesures prises ne sont pas à l'ordre du jour du débat national. Et toutes les mesures à venir, à la des privatisations, l'assurance chômage, les retraites, toutes ces mesures qui vont être à la défaveur des plus démunis, sont interdites de débat. C'est une imposture de plus. Il est en parfaite cohérence avec lui-même. Il défend une classe sociale mobilisée pour faire valoir ses intérêts et des intérêts qui sont en contradiction avec les arguments qui les fondent. On nous dit toujours que c'est pour faire baisser le chômage. Depuis 1986, le chômage n'a pas bougé. Notre livre, c'est une transmission d'armes. Alors d'armes au sens de la connaissance.
Macron ne peut pas changer de politique. Les Gilets jaunes ne veulent pas rentrer chez eux, vous voyez la suite comment ?
Pour moi, les choses se font dans le mouvement. Voilà, moi je suis persuadée que les dominos penchent en ce moment en faveur de l'oligarchie, mais ça peut basculer du jour au lendemain. Pour cela, il faut obtenir ce que les Gilets jaunes essayent d'obtenir, de l'argent pour augmenter leur pouvoir d'achat, mais aussi des réformes institutionnelles, notamment avec le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés. Ces dernières mesures institutionnelles, moi j'appelle ça des réformettes à potentialité révolutionnaire. Parce que le jour où le vote blanc sera reconnu dans les suffrages exprimés, eh bien la première soirée électorale, vous aurez eu une immense barre de vote blanc parce qu'une très grande majorité des élus sont discrédités pour faire carrière en politique, pour dévoyer ce qui est notre bien commun à nous, la politique. Et en ce moment, avec tous ces débats sur les ronds-points, c'est ça qui est génial. On voit la démocratie, mais il y a la solidarité. On discute. Pour moi, c'est ça, la vraie démocratie. Et mon rêve, c'est de voir la politique s'organiser d'une façon beaucoup plus participative, beaucoup plus solidaire, beaucoup moins verticale. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
Bah, j'ai pas pu m'empêcher après ce monde de haine de mon petit d'y aller de mon petit trémolo de romantisme peace and love donc Imagine de John Lennon, ça me semblait fort d'à propos.
Ça fait du bien après toute la violence qu'on vient de se prendre dans les oreilles.
Ouais. C'est clair. Voilà, donc en fait, quoi dire de plus sur les ultra-riches, à part que, messieurs, dames, le jour où vous serez arrivés à nous pressuriser tellement que tout le monde se mettra en grève, il n'y aura plus personne pour ramasser vos poubelles, c'est un peu con. Enfin bon, voilà, c'est insupportable.
Ah oui.
Totalement insupportable. Et cette enquête est vraiment très très intéressante et je vous encourage à lire ce livre.
Oui, et en plus, pour rebondir sur les Pinsons Charlot, qui sont un couple que j'adore et qui, je trouve, sont des sociologues et qui arrivent à être très pédagogues et à rendre compréhensible en fait toutes les études sociologiques qu'ils mènent. Il y a aussi, il y a des bouquins, mais il y a des choses qui peuvent être plus accessibles, même à des plus jeunes. Ils ont fait une BD avec Marion Montaigne,
ouais.
qui est vachement bien, qui s'appelle « Ah si j'étais riche », je crois. Où en fait, ils expliquent tous ces principes et notamment aussi comment se met en place cette dynamique de pourquoi est-ce que les ultra-riches, en fait, même si tu essayes de discuter avec quelqu'un qui a ce statut-là, il y a des choses qu'il ne va pas comprendre. Tu vois, on dit des élites déconnectées, machin. Et en fait, ils expliquent. Enfin, il faut lire cette BD qui est vachement bien. Ça montre bien, en fait, qu'il y a vraiment un fossé, quoi. Mmh. Vraiment.
Ouais, deux mondes à part.
Et tout à fait ça.
Voilà.
Très bien. Bon, alors, du coup, on va repartir un petit peu dans la rigolade et la légèreté, un petit peu, pour finir cette émission. Donc, comme je vous l'avais promis, moi, je vais balancer un petit coup de gueule sur Dadju, qui est un chanteur, donc sa chanson « Jaloux ». C'est tout un programme. Donc voilà, il est temps de décerner un étron d'argent à Dadju, chanteur de R&B de 27 piges, qui, malgré son âge et que l'on soit en 2019, comme ses copains de l'entreprise du salon d'agriculture Bednard Farm Machinery, n'a pas capté qu'il y a des visions qui étaient vraiment, vraiment dépassées. Allez, ambiance musicale. Donc, outre la musicalité de cette intro, mais ça à la rigueur, bon, c'est chacun ses goûts, hein. Dadju nous a pondu une bouse cosmique aux relents sexistes et paternalistes, empreint de possessivité de la femme, tout bien comme il faut. Les mecs en prennent également grave pour leur grade, au passage, passant soit pour des sales types, soit pour des gollums, et sont précieux. Donc désolé pour les oreilles sensibles de nos auditeurs, mais on va dérouler un peu les textes, sans musique quand même, parce que justement, sans cette ambiance un peu estivale, ça va nous permettre de mieux découvrir le sens profond de sa prose. Donc je vous déroule un petit peu les textes. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais, avec moi il n'y a pas d'histoire de c'est juste un ami, à qui tu veux faire avaler que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Les hommes, je les connais, j'ai moi-même été de l'autre côté. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te le dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Ma chérie, tu es jolie avec un corps impoli, les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu es embellie, tu es mieux que l'ex à Balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme-femme, y a pas d'amitié. Je ne sais toujours pas à quoi tu t'attendais, les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de son esprit, sois pas naïve, non. Méfie-toi de tout et de tout le monde, en commençant par le sexe opposé. Et donc, ensuite, il déroule le refrain que je vais vous laisser écouter.
Homme-femme, y a pas d'amitié, si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens.
Ah, ça fait un petit peu du bien le retour au féminisme.
Voilà, donc, enfin...
C'est comme, vrai, c'est grave.
Comme je te le disais tout à l'heure, donc avant cette émission, la mélodie est très légère. T'écoutes, enfin, je sais pas si tu penses forcément à écouter les paroles ou pas, mais moi, j'étais en voiture, j'entends ça, je dis, attends, mais qu'est-ce qu'il a dit là? Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais télécharger les paroles pour regarder un petit peu, et ça me paraissait quand même assez invraisemblable, quoi, parce que voilà, il est jeune, il a fait d'autres chansons. Après, voilà, comme je dis, le type de musique, c'est chacun ses goûts et tout. Moi, ça me plaît pas forcément, mais c'est pas.
Oui, enfin, tu m'appartiens, c'est quand même assez grave.
Ouais, voilà, mon bébé, tu es le mien. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Enfin, c'est quand même hyper lourd de sens. Et pour les jeunes qui écoutent ça, les hommes comme les femmes, je trouve que le message, on est en 2019 et... Enfin, j'ai pas trouvé ça cool, quoi.
Non, donc, c'est pas cool. C'est voilà. Pas cool. Donc, effectivement, étron d'or.
Voilà, tout à fait.
Problème.
Donc voilà, ben nous arrivons au terme de cette émission. Donc un grand merci à Clément,
merci
à
Clément.
La technique pour nous avoir assisté sur cette émission. Donc en sachant qu'il y aura des rediffusions donc mercredi et samedi, et que vous pouvez aussi toujours nous écouter en podcast. Alors vous pouvez nous écouter en direct sur le site de Radio Centrafrique, mais aussi en podcast sur le www.radiocentrafrique.com. Et voilà, on vous retrouve le 2 avril, mardi 2 avril.
Voilà.
Pour une nouvelle émission, on ne sait pas encore.
On ne sait pas encore, c'est surprise de printemps.
C'est le mot d'ordre de début d'année, un petit peu foutraque, mais avec du style, toujours.
Voilà.
Et de là, on vous fait des gros bisous.
Bisous,
on vous laisse
bisous,
avec un
bye
petit
bye.
Son de fin.
Keep